Histoire de matrimoine par Gaëlle Perel, les œuvres et les autrices en Bretagne depuis 1801.
Histoire de matrimoine est une invitation à découvrir les autrices en Bretagne, leurs œuvres singulières et universelles, écrites de 1801 à nos jours. Romans, essais, poésie, théâtre, récits de voyage, partons ensemble à la découverte de ces livres incontournables. Dans le matrimoine littéraire, l'agriculture est un sujet. Les agricultrices en sont des rouages incontournables, et les autrices, journalistes, essayistes s'emparent de cet univers qui constitue l'ADN de notre région. Nous allons donc arpenter les écrits des femmes qui évoquent le monde agricole, l'histoire des paysannes et les dérives d'une filière devenue aussi industrielle. L'histoire des femmes dans l'agriculture est aussi celle d'une présence et d'une mémoire souvent invisibilisées. Les paysannes ont longtemps été considérées comme des aides familiales sans statut juridique ni protection sociale. Dans le recueil « Paroles d'agricultrices », publié aux éditions Stéphane Batigne, voici ce que l'on peut dire sur ce déni de reconnaissance. Le travail des femmes s'est considérablement transformé au cours des années. Autrefois, elles allaient au champ dans la journée, devaient rentrer traire les vaches, préparer le repas et s'occuper des enfants. Et pourtant, aux yeux de la loi, elles ne travaillaient pas. Leur implication n'était pas perçue et reconnue comme du travail, mais comme de l'aide au mari. Il faut attendre le milieu des années 1970 pour qu'elles obtiennent des congés maternité, un point évoqué en poésie par l'auteur costa-armoricaine Aurélie Olivier dans son recueil « Mon corps de ferme » édité aux éditions du Commun. En 1976, 67 ans après les salariés, les paysannes ont un congé maternité. 14 semaines pour les salariés contre 14 jours pour les paysannes. En 1986, le congé est allongé. 16 semaines pour les salariés contre 8 semaines pour les paysannes. À minima, l'élevage s'annonce intensif.
Sur son espalle, il y a un fusil. Mon fil, des morts, est-ce pas acquis? Non, pas il était compris, pas. Hier, où t'as un jour, serais soldat. Hier, à ma que l'homme est voli, chuga. Dai somme paire, ten fages pas. Mon fil, demores pas aquí. Mon fil, dai sota fedra, vai morir. Mon fil, l'udarie passera res parti. Mon fil, per un mestier. Baïten d'aquí.
Non, pas il était compris pas. De ce pastre, ma grado pla. Bolibi ou sur l'arzac. La terre est nostre, ça va être plat.
Mon fil, demores pas acquis. Mon fil, ta mère t'espère faire partie. Mon fil, tiens tout est en exil. Mon fil, l'armada, vole-tu à ton pays?
Non! paire te compagni pas. Andis che una chi per nous sauva. Andis che ne ventu te sprofita. Andis che savo e che nous autres savem pas.
Mon fil, y a force au ten ses arrivages. L'armada sbenguida colonizza e dei pei beleu de beire che nous en pastuas. Mon fil volon torna comenza.
Oh, oh paire te compreni pla.
Il faudra attendre 1980 pour que soit créé un statut de co-exploitante. 2006 pour qu'elle bénéficie d'une extension de la couverture sociale. 2011 pour la création du GAEC entre époux. Pourtant, depuis toujours, les paysannes font tourner les fermes et leurs maisons. Parfois seules, comme pendant la Première Guerre mondiale. Parfois seules quand elles reprennent ou créent leur propre exploitation agricole. Car hier comme aujourd'hui, malgré les préjugés qui persistent toujours, les agricultrices sont aussi les patronnes. Les paysannes prennent la parole aujourd'hui, dans les livres, les podcasts et pendant la récente crise agricole. La figure emblématique de la paysanne en Bretagne et en Côte d'Armor est bien évidemment Angela Duval, qui devient autrice dans les années 1950 alors qu'elle devient orpheline de ses deux parents. Elle a alors 50 ans, elle est née au Vieux Marché en 1905 et elle écrit son quotidien dans un monde agricole alors en pleine mutation. Nous allons écouter l'un de ses poèmes traduit par l'auteur Paul Koenig, un poème extrait de son recueil « Quatre poires ». Un frisson court dans mon dos plein d'épines, sur ma tête ma chevelure de ronce se raidit. Ma dernière heure a sonné. Fini mon malheur en ce monde. Le sol bouge. Les arbres tremblent. Mais que vois-je? Ce n'est pas la mort. C'est un grand diable armé de griffes qui s'en vient me hacher, me dépecer. Le bulldozer rouge à l'énorme pelle vient m'ensevelir dans la fosse. Ah, que l'acier de tes griffes trempe dans le sang pur de mes racines, ainsi que les mains du bourreau dans celui du martyr. Tandis que mon âme flottera légère dans le duvet de ma poussière, nuage porté par le souffle très haut par-dessus les collines, vers un paradis, le paradis des vieux talus. 25 mars 1963. Aujourd'hui, le talus est à nouveau une question d'une brûlante actualité, puisqu'il nous faut les reconstruire. Comme Angela Duval, des décennies plus tard, Aurélie Olivier évoque le remembrement dans ses vers extraits de son recueil « Mon corps de ferme ». Au tout début des années 50, un géographe français, gars du coin, déplore le déficit de modernisation et la mentalité paysanne. Il tire les cartes puis il s'écrit « Il faut faire aimer l'argent aux paysans ». Entre 1955 et 1975, lui et ses camarades défendent le remembrement. Une opération foncière qui permet de rassembler des parcelles pour faciliter la motorisation de l'agriculture. Les prés deviennent carrés. Dans son récit édité aux éditions Stéphane Batigne, En finir avec la honte de nos racines paysannes, Marie-Paul Jiquel, née dans le centre-Bretagne, évoque de façon très sensible cet héritage paysager, héritage viscéral, ici raconté. C'est aussi une géographie avec ses repères qui se fixaient dans notre mémoire. Arbres singuliers, croisements, trouées, sources, calvaires et autres indices qui jalonnaient les chemins familiers ou moins connus permettaient de s'y retrouver et parfois de guider l'égaré. Quand tu arriveras là, ces hommes et ces femmes qui avaient sillonné les routes et les chemins et avaient arpenté en tous sens leur terrain et ceux de leurs voisins, connaissaient leur coin comme leur poche. Une mémoire collective inscrite sur les pentes des tertres et au creux des vallons allait disparaître. Ils ne disaient pas tout ce qu'ils avaient sur le cœur, mais ça leur faisait quelque chose d'abandonner ces parcelles qui étaient un bien de famille depuis des générations et ces terrains qu'eux ou leurs parents avaient peut-être achetés au prix de bien des privations. Il leur arrivait de lâcher, ça fait quelque chose. Tout l'important était dans le silence et le non-dit qui suivait à chaque fois ces remarques. Ils n'avaient pas les mots pour parler de cet attachement viscéral qui les unissait à ce coin de terre et à cette ferme qui les avait vus grandir, ferme que les anciens parents et grands-parents cultivaient depuis des décennies, ferme où ils avaient pris racine et qui était comme un prolongement de la famille. Ça n'avait pas de prix. On en vivait, et toute cette terre, ils l'avaient dans la peau. La Bretagne, terre agricole racontée dans des récits que nous connaissons tous et toutes, le cheval d'orgueil, bien sûr, ou encore mémoire d'un paysan bas breton, à une époque où les femmes sont considérées comme de simples renforts. Deux contre-exemples en littérature à travers le récit d'Odette du Puy-Godeau, Grandeur des villes. Odette du Puy-Godeau est une ethnologue, une exploratrice qui commence par arpenter les villes bretonnes à la fin des années 1920. Quatre îles plus exactement, Groix, Saint, Molène et Ouessant. Voilà ce qu'elle nous dit de ces îliennes qui tiennent leur territoire, les hommes étant pour la plupart partis en mer. Les Ouessantines n'ont pas eu de chance. C'était trop tentant de lâcher le démon de la littérature dans cette île peuplée de femmes. C'est lui qui les a faites ainsi, méfiantes et rancuneuses. Peut-on leur en vouloir ? Savinion les a clouées une fois pour toutes au pilori, filles de la pluie, filles perdues. Et les champs alors ? Qui donc a défriché les landiers, rejeté les cailloux, nourri la terre nouvelle du gras fumier de mer, le goément brun aux âpres senteurs d'iode ? Sûrement pas les hommes. Dès leurs 13 ans, ils se font navigateurs. Entendez par là qu'ils naviguent au commerce. Les plus chanceux reviennent à l'île 2 ou 3 semaines par an, maigre congé qu'ils consacrent à pêcher des batelets de lieux et de vieilles que les femmes sèchent ou salent pour les provisions d'hiver. À part ces nomades, quelques sédentaires, infirmes, retraités, les équipages des 2 bateaux de sauvetage et des phares, le recteur, le maître d'école, le médecin et le postier. Donc si l'on voit sur Ouessant de l'orge, des patates, des oignons, des choux et des pois, des jardins de fleurs, des meules de foin et des moutons, c'est grâce aux femmes. Le roman d'Anne de Tourville, Jabadao, est aussi un contre-exemple qui donne la part belle aux paysannes. Dans ce texte pris féminin en 1951, elle met en scène la Bretagne à la fois dans sa mémoire immatérielle, les grands rites et les grands rituels, mais aussi dans sa modernité. Nous sommes en 1951 et par ce Jabadao, ce grand chamboulement, Anne de Tourville nous invite à réenchanter notre rapport au monde. Son roman est porté par de très beaux personnages féminins, dont l'une est une riche fermière, Catel, par qui le malheur arrive, et l'autre est Berhed, bergère lumineuse, qui éloigne le mal. Autre roman formidable, À l'angle du renard, de la costa armoricaine Fabienne Juel, qui met en scène un serial killer des campagnes. Un roman que je vous recommande vivement. Le renard, surnom donné au narrateur, est le personnage central de ce récit qui met en scène un homme en souffrance, un homme qui voit son monde disparaître, ce qui va déclencher sa grande colère. Écoutons le renard dans cette nouvelle lecture. Ce matin, j'ai fait des tours de tracteur pour me calmer les nerfs. J'aurais pu aller voir Marie-Lou, mais c'était pas encore notre jour. Juliette a voulu venir. J'ai dit non, j'ai pas donné d'explication. J'avais des choses à ruminer. Car il est pas né le gars qui me délogera d'ici. Pourquoi j'irai voir si l'herbe est plus verte ailleurs ? J'habite ici, nom de Dieu. J'ai toujours habité ici, dans la ferme des parents. Cette terre, je l'ai dans la peau, même dans la bouche. Un petit bout de terre à mâchonner comme on chique du tabac gris. Ça crisse sous les dents, ça agace les gencives, ça occupe l'esprit. D'abord, la terre et moi, c'est une longue histoire. Ça remonte à mon baptême. Une affaire entendue avec Dieu. Au-dessus des fonts baptismaux, le curé m'a oint le front de son pouce terreux. La mère m'a raconté ça. Et c'est pas à Yvan ni à un autre que cette histoire-là est arrivée. Pas de danger. Le curé, il avait pas pris la peine d'aller se laver les mains. Le père était allé le quérir dans son potager. Il avait oublié l'heure de la cérémonie. Alors moi je dis, fils de paysan, fils de Dieu, c'est du pareil au même. Un homme qui connaît bien la terre, qui sait par livrer du bon grain, qui multiplie les pains, fabrique le monde en 6 jours ouvrables et se repose le dimanche. Je connais mes évangiles, alors c'est tout vu. On m'enterrera là, à côté de François, derrière le hangar. De toute façon, je déteste voyager. J'ai en abomination les déplacements, le mouvement, même le vent. C'est une chose pour la mer. Et quand la nécessité me force à aller aux commissions à vélo, c'est comme si je pédalais contre le vent, contre mon gré. C'est un acte contre nature. Une transformation d'un paysage agricole, d'un monde paysan, qui s'accompagne aussi d'une industrialisation, dans l'élevage notamment. Industrialisation dont les dérives et les méfaits sont énoncés dans le roman graphique remarquable d'Inès Leroy, Les algues vertes, fruit d'une enquête menée en Côte d'Armor notamment, que l'on peut écouter dans l'émission Les pieds sur terre sur France Culture et qui a récemment été adaptée au cinéma. Inès Leroy pose la question du lien entre production intensive et pollution massive aux algues vertes. Véritable scandale écologique, économique et de santé publique. Une bande dessinée qui fait écho à l'essai de Françoise Morvan, intitulé « Le monde comme si » paru en 2004. Une réalité incarnée par Aurélie Olivier dans ce recueil déjà lu et évoqué où elle retrace son histoire, mon corps de ferme, corps rendu malade par l'usage des pesticides et autres pollutions. Mélanome, lymphome, leucémie, tumeur du système nerveux central, cancer de la prostate. Il y a des risques accrus de développer certaines maladies au sein des exploitations familiales. Au fur et à mesure des années, je choisis sans choisir de partir pour mettre fin aux malédictions qui se répètent de génération en génération. Longtemps, je crois à l'efficacité de l'écran total. Longtemps, je crois à l'illusion de l'exact opposé. Longtemps, je dégénère. La Bretagne, terre d'une agriculture intensive, industrielle, un choix productiviste dont nous mesurons les ravages. Cette réalité saisit aujourd'hui toute la population et toute la profession. Une réalité qui nous affronte, nous confronte, mais qui, espérons-le, oblige à évoluer vers une agriculture à minima raisonnée, rémunératrice pour les paysans et les paysannes, et sans mise en danger de la santé des uns et des autres, à commencer par celle des agriculteurs et des agricultrices. Écoutons Florence qui témoigne dans le très beau recueil d'Anne Lecourt « Paysanne » publié aux éditions Ouest-France. Florence est justement éleveuse de porcs en Côte d'Armor et veut parier sur l'intelligence collective. Florence commence par mettre ses pas dans les pas des aînés. Elle sait aussi que c'est en gardant en mémoire la vieille histoire, les gestes et les paroles des générations disparues qu'on avance dans le bon sens. Pas comme on s'embarrasserait de vieilleries anciennes qui entravent la marche, mais comme des expériences à mûrir pour dépasser le poids des croyances et des conditions inculquées. La génération qui arrive ne se reconnaît plus dans ce qu'on lui met dans son assiette. Quand je dis que je suis éleveuse de porc, je vois les gens qui se ferment. Pire, je suis éleveuse de porc en Bretagne. Il n'y a pas d'idée messianique. Les changements sont toujours difficiles à mettre en place. Ce n'est pas que l'on s'est trompé à un moment donné, je ne crois pas. C'est que les choses changent et qu'il nous faut l'intégrer pour préparer demain. Et rester optimiste. Arrêter de distiller la peur, apprendre à co-gérer. Les nouvelles à la télé broient du noir au lieu d'imaginer des solutions ou de montrer les gens qui travaillent ensemble et qui travaillent pour mieux faire. Je n'ai pas l'impression de faire un sale boulot. Bien au contraire. L'élevage est un très beau métier, un métier de passion, d'engagement, de nécessité. Ce serait dommage de ne pas transmettre. Ce serait terrible de ne pas transmettre. Partout, de nouvelles pratiques sont à l'œuvre, annonciatrices d'un changement qui doit s'opérer. Un changement que Jacques Caplat, agronome en Ille-et-Vilaine, membre d'Agir pour l'environnement, accompagne par des interventions, des formations qui prônent la transition écologique, ses vertus environnementales, sanitaires et économiques. Dans le roman graphique qu'il a publié aux éditions Actes Sud avec l'autrice Laetitia Rouxel, « Demain dans la terre », une autrice brétilienne née à Saint-Malo, nous suivons un agriculteur dans sa réflexion et sa conviction progressive de choisir un autre modèle agricole. Un sillon creusé par Laetitia Rouxel dans son nouveau roman graphique « Pépille » pour une civilisation de l'abondance. Dans les romans graphiques récents, il y a aussi ce portrait d'une algocultrice du Guilvinec, Scarlett Lecor, à contre-marée, une pêcheuse et agricultrice au caractère bien trempé comme sa mauvaise foi lorsqu'il s'agit des algues vertes, une femme à l'énergie bouillonnante. Nouvelle génération, nouvelle paysanne qui s'installe et lutte pour faire germer leurs rêves. Ainsi Anaïs Kerouas, mise en scène par la réalisatrice Marion Gervais dans un film documentaire intitulé « Anaïs s'en va en guerre ». Ce documentaire nous raconte l'histoire de cette jeune femme qui s'installe pour produire ses plantes aromatiques et médicinales, ses déboires et ses succès. À la suite de ce documentaire, Anaïs Kerouas a raconté son parcours dans un récit éponyme et nous dit « Avec mes petites connaissances de l'usage des plantes médicinales, on me qualifie souvent de sorcière des temps modernes. J'aime bien ce nom de sorcière pour les pouvoirs auxquels il renvoie. Ces femmes qualifiées de sorcières suscitaient peur et méfiance parce qu'elles étaient des guérisseuses, des femmes savantes, riches d'un savoir que les hommes ne maîtrisaient pas, ou encore parce qu'elles étaient jugées trop indépendantes, trop libres dans leurs actes et leurs paroles, ou trop vieilles, inutiles parce qu'elles ne pouvaient plus enfanter. Elles ont été chassées, traquées et brûlées à la Renaissance. Pour moi, être une sorcière, c'est avant tout être indépendante, s'affranchir de la domination des hommes, de ce que la société entend de la féminité, de la maternité. C'est vivre comme on l'entend, en faisant fi des injonctions sociales. Mais c'est aussi détenir des savoirs sur la nature, les plantes et le corps des femmes. Et surtout, partager et transmettre ces savoirs. La révolution agricole sera féminine ou ne sera pas.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe.
Et les mâles vont faire la part des choses.
Il est grand temps
de faire une pause, de troquer cette vie morose
contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones,
pas même le shit que tu mets dans tes cônes.
Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout, il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient. Que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là,
tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie-le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau,
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie-le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!